Eh bien, ce matin, on va faire quelque chose de vraiment différent. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, ça va vous paraître très bizarre. Vous allez dire, quelle sorte d'église que c'est ça? J'ai jamais vu ça. N'ayez pas peur. Partez pas à courir. C'est une matinée un peu particulière. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous expliquer. Je voulais passer au moins un dimanche pour vous expliquer la Pâque juive et la signification de la Pâque juive et comment Jésus-Christ, finalement, est l'accomplissement de la Pâque juive. Il est la Pâque juive. Donc, c'est une fête qui est célébrée chaque année par les Juifs à travers le monde entier. Donc, ce matin, ça va faire très juif. Je pense que ça vaut vraiment la peine parce qu'on va voir comment Jésus est en arrière de tout ça et que même déjà des millénaires avant, lorsque Dieu a institué cette fête, Dieu avait déjà mis sa signature et pointait déjà vers le Messie à venir qui devait arriver des centaines d'années plus tard. Et on le voit déjà dans le Nouveau Testament, comment Jésus est vraiment, finalement, la Pâque. Donc, je vais vous expliquer un peu comment les Juifs célèbrent la Pâque à chaque année, c'est au printemps. Donc, c'est un peu différent. On va retourner à notre série dans les prochaines semaines. Mais si moindrement vous êtes nouveau vous commencez à lire la Bible, vous allez croiser ces passages, parce que c'est un passage, un gros morceau dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, la Pâque. Quand Dieu a institué ça, qui va se réaliser pleinement dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Donc, de toute façon, c'est une belle occasion d'expliquer, et vous allez comprendre un peu, et les ingrédients, on va vous expliquer un peu les ingrédients, et le message en arrière, il y a un message derrière ça. Donc, pour que ce soit, vous avez vu Amy tantôt allumer la chandelle, et c'est par exprès, parce que lorsqu'on a une soirée, on fête la Pâque juive, c'est une fois par année. Lorsqu'on prépare une table, on appelle ça le seder, c'est le souper de la Pâque juive. C'est à la femme que revient d'allumer la chandelle. C'est tout ce qu'elle fait dans la soirée. Elle se repose au restant de la soirée. Et pourquoi? Parce qu'elle a. C'est pourquoi qu'elle a la chandelle? C'est elle qui allume la chandelle? Ça représente la vie, ça représente la lumière dans le foyer, tout ça. Alors là, j'attendrai ici, si vous êtes intelligents, les gars, là, tout de suite, vous dites un gros amen. C'est la femme qui amène la joie dans la maison. Vous voulez avoir une belle journée, les gars, vous devriez dire amen à ce point-ci. Oui, ça va être une bonne journée. Et c'est ça, c'est tout. On donne vraiment un repos à la femme ce soir-là, le soir du Seder. Ça s'appelle Seder, c'est le repas juif. Le Seder veut dire ordre. C'est l'ordre, qu'on suit un ordre. Lorsque Dieu a institué la fête de Pâques, il a institué en fait sept fêtes juives dans l'Ancien Testament. Il y en avait trois qui étaient des cinq convocations où les Juifs, indépendamment où ils demeuraient en Israël, qui demeurent dans le nord, sud, est, ouest, ils devaient se déplacer au moins trois fois par année pour venir célébrer la fête à Jérusalem, et notamment, ça c'est l'une des fêtes, l'une des plus importantes d'ailleurs chez la communauté juive, encore aujourd'hui, la fête de Pâques. Vous allez comprendre que la fête de Pâques a changé depuis des millénaires parce qu'il n'y a plus de temple. Parce qu'à l'époque, vous allez voir, on va lire une portion, quand la fête est instituée, quand Dieu a demandé à son peuple en Israël d'observer cette fête, un des gros morceaux de cette fête, c'était majeur, c'était le sacrifice de l'agneau. On devait trouver un agneau qui était un an sans tache, un agneau parfait, que l'on offrait pour les péchés de la famille. Chaque famille devait prendre son agneau, acheter un agneau et l'offrir en sacrifice. Et de cette façon, symboliquement, l'agneau prenait la place, prenait le péché de la famille. On transférait les péchés de la famille, on mettait la main sur l'agneau, on l'offrait en sacrifice. Il y avait une imputation, un transfert de tous nos péchés, c'était transféré sur les épaules de l'agneau qui était sacrifié, et on avait du sang qui coulait, et c'était cette vie, finalement, ce sang qui coulait, permettait à la famille d'être épargnée et d'avoir ses péchés pardonnés, mais c'était à recommencer d'année en année. Intéressant, un verset très important dans le Nouveau Testament. En passant, pour que cette soirée-là soit acceptée, elle soit cachère, il y a des choses essentielles qu'on a besoin. Entre autres, les hommes doivent porter une kippa. C'est une petite calotte sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est par marque de respect. Donc, j'ai besoin des volontaires qui vont venir. Je vois déjà Jean Destin en arrière qui se porte volontaire. Mais attends, Jean, viens porter ça. Je pense que tu ferais un bon juif. Toi, viens ici. J'ai besoin d'autres messieurs qui viendraient en avant. J'en ai quelques-uns, là. J'en ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens. Oui, Éric Lantier. Viens-t'en. Ça, c'est pas de ma faute, c'est lui, là. Viens-t'en, Éric. Viens, regarde ça. Y a-tu l'air d'un juif? Hein? C'est un bon juif. Viens-t'en, Éric, mets ça. Tiens. Viens-t'en. Oui, bravo. Hey, bravo, il y a du courage. Oui, du courage. Hey, est-ce qu'il y a des courages, là, ici, dans la salle? Tiens, mettez ça ici. Hey, là, ça ferait une belle photo sur Facebook, ça, les amis, hein. Tiens, viens-t'en, c'est bon. Eh oui, vas-y, Jeannot. Tiens, viens-t'en ici, là. Regardez ça, ça c'est-tu beau, ça? En passant, vous ne pouvez pas rentrer dans une synagogue. Regarde ça, c'est beau, là. Hein? C'est le temps de prendre des photos, les amis, là. Vous allez voir, ça va devenir viral tout à l'heure, là. C'est bon. Elle est allée vraiment d'un juif, là. Hey, merci, vous pouvez aller vous asseoir. Gardez-les, c'est votre cadeau. Ben oui, gardez-les, là. C'est... Puis il faut le garder pendant tout le service, les amis, hein? Oh, oui, oui, ah, oui, c'est sérieux, là. Vous pouvez pas rentrer dans une synagogue aujourd'hui, et même depuis des années, vous pouvez pas rentrer dans une synagogue, les hommes, sans avoir votre calotte sur la tête, le kippa, en yiddish, j'appelle ça le yarmulka, parce que c'est un signe de respect. Et d'ailleurs, même si vous l'oubliez, c'est pas grave, il va même avoir des placeurs à la porte qui vous en donnent un. Puis ils vont même vous arrêter. Je me rappelle, je suis rentré dans une synagogue à un moment donné, puis j'avais pas ma calotte, puis on m'a arrêté. On est venu me chercher, puis on m'a donné une calotte. On va regarder la fête de Pâques, on va l'expliquer ce que c'est, mais regardez bien ce que ça dit dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens. Et là, c'est vraiment Pâques qui prend tout son sens. C'est vraiment rendu au Nouveau Testament qu'on comprend la vraie signification, la signification telle que Dieu avait déjà dès le départ pour la Pâque. Et dans 1 Corinthiens 5, 7, ça dit « Notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » Notre Pâque est Jésus-Christ. Et ça, c'est le vrai sens de Pâques. Chez les Juifs, et d'ailleurs, ça a commencé dans l'Ancien Testament, on va voir des passages où Dieu a demandé à son peuple, a prescrit cette fête annuelle. Pour les Juifs, vous savez, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Messie. Ils attendent encore leur Messie, même s'il est venu il y a 2000 ans. Pour les Juifs, ils célèbrent la Pâque pour se souvenir, se remémorer de la délivrance des Juifs lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. D'ailleurs, vous vous souvenez probablement un film que vous avez vu avec Charlton Heston, ce film-là, je ne me souviens pas du titre, « Les 10 commandements », je crois, hein, c'est ça. Et là, tu vois là, Charlton Heston là, séparer les eaux et tu vois se mettre le sang sur les linteaux. C'est exactement ça. Ils étaient esclaves en Égypte. Alors, on connaît bien l'histoire, ayant vu le film, mais la fête de Pâques est là pour se souvenir de cette grande délivrance, ce grand salut, finalement, du peuple juif, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. C'est donc une célébration, c'est une fête. La joie va être empreinte pendant toute cette soirée-là. Encore aujourd'hui, en 2015, lorsqu'on célèbre la Pâque, c'est très important d'avoir de la joie, parce que c'est la libération du peuple juif. On se souvient de ça. Et Dieu avait demandé qu'on répète cette histoire de génération en génération. On va lire ce passage-là où Dieu le demande, parce qu'on va oublier. Et Dieu va demander aux familles juives, ils vont avoir cette table, ils vont être assis autour de la table, et c'est un gros repas qui va prendre à peu près une heure et demie. On va beaucoup manger, ça va varier d'une place à l'autre. Ça va changer. Il y a certaines petites choses qui vont changer, mais il y a des absolus non négociables qui ne changeront pas. Mais il y a des petites choses qui vont changer. Par exemple, certaines communautés juives, je vais vous expliquer tantôt qu'il y a un œuf rôti, et rôti au feu, c'est très important, c'est essentiel que ce soit au feu, parce que ça donne à penser, justement, en 70, lorsque le temple a été brûlé au feu, ça a été détruit. Donc, vous allez remarquer que même si le thème de toute la soirée, c'est la joie, on va avoir certains éléments, certaines étapes au cours de la soirée où on va être triste. Et on veut garder cette tristesse-là en mémoire de la souffrance non seulement des Juifs lorsqu'ils étaient esclaves dans l'Ancien Testament, mais des Juifs qui ont souffert à travers des siècles. On pense à ce qui s'est passé dans les dernières décennies. Et on va pleurer, on va être triste au cours de la soirée en souvenir de la souffrance des Juifs. Et non seulement ça, l'une des choses, et je reviens avec cet œuf rôti par le feu, pourquoi le feu? Parce qu'on pense au feu qui a brûlé en 70 le temple. Et ce qu'on va faire, on va être triste au cours de la soirée parce que le temple a été détruit. Et on va être triste, d'ailleurs il y a même une bénédiction qu'on va réciter à ce moment-là, lors de la soirée, on est triste tant et aussi longtemps que le temple ne soit pas reconstruit. Ça fait partie même d'ailleurs d'une des prières, des bénédictions des Juifs, que tant et aussi longtemps que le temple n'est pas reconstruit, ils n'ont pas le droit comme d'être parfaitement heureux et dans la joie. On doit garder une tristesse. Et c'est pour d'où, finalement, les herbes amères qu'on va expliquer tantôt, comme le réfort et tout ça. Et parce que, justement, on ne peut pas s'épanouir pour un Juif sans temple, parce que le temple représente la présence de Dieu. Donc, ça, c'est majeur chez les Juifs. Un passage qui va être important, que j'aimerais vous lire, c'est dans Exode, chapitre 12. On va lire quelques versets dans Exode, chapitre 12. Alors, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 5 continue, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. » Où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Certains ont fait allusion pourquoi il l'a gardé pendant, entre le 10 et le 14e, c'est que l'agneau restait dans la famille et on s'attachait à l'agneau. Donc, quand tu peux imaginer les enfants là, qui sont collés, tout ça, ils ont cet agneau-là, et vient le moment de le sacrifier, l'offrir en sacrifice, tu as ce sentiment de deuil, de perte. Et on continue, verset 7, ça dit... On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on la mangera. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, et là il parle à son peuple, qu'il délivre de l'esclavage de l'Égypte. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et en passant, Passover, et le mot hébreu, c'est exactement ça, lorsqu'on fête le Pessah, qui est Pâque, c'est passer par-dessus de. On passe par-dessus. Lorsque l'ange de la mort allait passer sur les maisons, lorsqu'il y avait ce sang qui avait été versé de l'agneau, qui était sur les portes et sur le linteau, l'ange de la mort passait par-dessus la maison et épargnait, sauvait finalement le foyer du jugement de Dieu. Alors, le sang sauvait la famille. C'était par le sang versé, d'accord? Donc, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, je tuerai tous les premiers-nés, etc. Pour vous, en revanche, verset 13, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle. Donc, encore jusqu'à aujourd'hui, là, en 2015, les Juifs à travers le monde, que vous soyez à New York, que vous soyez en Inde, tous les Juifs à travers le monde vont célébrer cette fête qui est la fête de Pâques. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous et au fil des générations. Alors, d'enfant en enfant, de famille en famille. Alors, Dieu envoie son ange de la mort et passe par-dessus les maisons où le sang se trouve sur les portes. Alors, le sang versé de l'agneau, un agneau qui est sans tache, pur, est donc le seul moyen par lequel on peut être sauvé et épargné du jugement de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Si une famille égyptienne, par exemple, avait entendu quelques Juifs parler, et ils avaient décidé de mettre du sang sur les linteaux et sur la porte, aurait-il été épargné? Absolument, parce que voyez-vous, c'est par le sang qui a coulé de l'agneau qu'on peut être sauvé, qu'ils étaient sauvés. Ce n'est pas par le sang qui coulait dans les veines, ce n'était pas une question d'affiliation, c'est une question par la foi, ce que Dieu avait dit, ils ont mis le sang, c'est par le sang qu'on pouvait être sauvé. Par la Pâque, cette première Pâque qui a été instituée par Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, Dieu était déjà en train de révéler son plan du salut à travers l'histoire, à travers le siècle, et que le salut viendrait par le sang de l'agneau qui serait offert en sacrifice. Imaginez, on parle de millénaires passés, déjà Dieu avait, dans l'Ancien Testament, déjà à cette époque-là, Dieu avait braqué les projecteurs sur Jésus-Christ qui allait venir des centaines d'années plus tard, sur le Sauveur. Le sacrifice parfait, finalement, qui serait offert seulement une fois, unique, et non comme les agneaux chaque année qui devaient être répétés. Et c'est ce que dit Ésaïe 46, comment Dieu avait orchestré des événements, certaines fêtes et certains événements dans l'Ancien Testament qui pointaient vers Jésus-Christ qui allait venir. C'est le cas notamment dans Ésaïe 46, où il est dit, « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance. » Ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Et c'était exactement ce qui se passe avec la fête de Pâques. Et moi, quand j'entends et je lis ces passages-là, ça ne peut pas faire autrement que de cimenter ma foi dans les Écritures saintes, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs l'une des évidences dont on se sert et qui est très appropriée, les 300 quelques prédictions et prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, là. Et qui se sont réalisés à travers l'histoire. Et c'est une évidence de l'inspiration divine de la Bible, alors que Dieu lui-même, des centaines d'années avant, avait déjà préparé le chemin vers Jésus-Christ. Alors, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Et ce que Dieu a dit se révèle, ce qu'il a révélé, se réalise à la lettre. Alors, ce matin, on regarde le repas que les Juifs observent à la fête de Pâques, ce cédère, le repas juif. Et j'aimerais vous expliquer quelques-uns des ingrédients qu'on va avoir ici. Maintenant, il y a deux choses lors d'un souper juif, ce cédère-là, lorsqu'on célèbre cette fête de Pâques. Il y a deux choses vraiment, c'est essentiellement, c'est relativement simple, c'est qu'on mange puis on raconte. On raconte l'histoire, parce que le but de ce souper-là, finalement, c'est de toujours revenir avec raconter l'histoire de l'Exode. D'ailleurs, dans les étapes, il y a quelques étapes dans la soirée, ce qu'on va faire, l'une des étapes, c'est le fils, un des jeunes garçons, qui va demander la question, qui va dire pourquoi cette fête est-elle différente des autres fêtes. Et là, papa, qui est assis au bout de la table, papa va commencer à raconter en détail toute l'histoire de la délivrance des Juifs en Égypte, de l'esclavage en Égypte. Et c'est pour ça qu'un repas comme ça, un repas de la Pâque, va durer au minimum au moins une heure et demie. C'est un gros culte familial, d'à peu près une heure et demie, si ce n'est pas deux heures. Parce qu'on raconte toute l'histoire d'Israël afin justement qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de ce salut d'Israël. Exode 13 dit ceci. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé, ni le levain sur tout le territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Et ça, c'est vraiment cette fête-là. Maintenant, au début, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que c'était pas mal simple. Lorsque Dieu a institué cette fête-là, c'était très simple. Il y avait juste 3 ingrédients. Il y avait évidemment l'agneau pascal que l'on offrait, et on le mangeait au complet. On l'offrait en sacrifice, et puis on le mangeait. Deuxièmement, il y avait le second ingrédient, c'était les herbes amères. Ça, on avait ça dans l'Ancien Testament, pour se souvenir justement de la douleur, la tristesse du peuple juif lorsqu'ils étaient esclaves. Et troisièmement, il y avait du pain matzah que vous avez ici. Vous allez avoir l'occasion à la fin du service, lorsqu'on va avoir la distribution des éléments de la Sainte-Cène, de pouvoir en manger. Vous allez vraiment manger le matza. D'accord? Trois ingrédients. Maintenant, il faut comprendre qu'avec les siècles, les années, ça a changé. Les rabbins ont ajouté plein de détails. Ils ont élaboré cette soirée-là. Puis, ils n'avaient pas le choix. Parce que si dans l'Ancien Testament, on pouvait manger le sacrifice, on pouvait l'offrir en sacrifice, qu'est-ce qui arrive en 70 lorsque le temple est détruit? Ils n'ont même pas le droit d'aller au temple pour offrir un sacrifice. D'ailleurs, l'Empire romain interdisait aux Juifs d'aller au temple, sinon qu'une fois par année pour aller au mur de lamentation et se lamenter pour la perte et la destruction du temple. Et pourquoi l'Empire romain permettait aux Juifs d'y aller une fois par année, sinon que de leur rappeler, regarde, on veut vous montrer c'est qui contrôle ici. Et c'est un rappel, finalement, de la grande puissance mondiale de l'époque, l'Empire romain. Et les Juifs, depuis ce jour, ne peuvent pas offrir de sacrifice au temple. Ils ont hâte, en fait, de reconstruire le temple et vraiment refaire, suivre à la lettre la prescription de l'Ancien Testament. Maintenant, ils ont été obligés, donc, de réinterpréter les passages de l'Ancien Testament. Parce que ce qui arrive, c'est que tu ne peux plus offrir de sacrifice d'agneau. Alors, tu vas faire quoi? Donc là, on va changer, avec les années, on va changer les éléments du repas. On va avoir un œuf, par exemple, un œuf qui va être rôti au feu. Et comme je disais, ça rappelle le feu au temple. Parce qu'on ne peut pas avoir d'agneau. Alors, on va avoir aussi un os qui rappelle finalement l'agneau. Soit un os, comme j'ai dit tantôt, ça c'est une des choses qui est flexible, qui va changer de foyer en foyer ou de tradition en tradition, de communauté en communauté. Parfois, on va prendre une cuisse complète de poulet. Certains vont prendre un os d'agneau et il va avoir un petit peu de viande dessus. D'autres interdisent, d'autres communautés juives vont interdire de prendre un agneau. Parce que justement, on n'a plus le droit de prendre un agneau pour certaines communautés juives, parce qu'ils ont dit, on ne peut plus offrir de sacrifice, c'est sacré, si on ne touche pas à ça. Donc, ils vont interdire finalement de prendre un os d'agneau, on va plutôt prendre un poulet ou d'autres viandes à la soirée. D'accord? Et le souper d'ailleurs sera comme un poulet ou autre chose. Donc, ça a été élaboré depuis quelques années. Dans la soirée, le Père va raconter la grande délivrance des Juifs de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'enseignement que Papa veut raconter à sa famille, c'est un, le salut qui est uniquement par grâce. Les Juifs n'avaient absolument rien fait pour se mériter ce salut et cette grande délivrance-là. C'est pure grâce, comme ça l'est aujourd'hui, comme ça l'est en Jésus-Christ. Mais ce qu'on raconte aussi, on veut raconter aux enfants, que nous n'avons pas été faits pour cette terre, c'est la délivrance de la terre des ténèbres, il y avait l'idolâtrie, tout ça. On n'appartient pas à cette terre d'esclavage et tout ça. Et là, on va raconter la grande délivrance, ce grand salut de Dieu à travers le désert, ce grand voyage pour emmener les Juifs à la terre promise. Cette terre qui est la vérité, qui est la lumière, où coule le lait, le miel. On a été faits pour vivre dans la lumière. Maintenant, nous qui avons le Nouveau Testament, nous comprenons que le vrai sens derrière ça, c'est que la terre promise nous attend, elle est en Jésus-Christ. Pour y accéder, c'est Jésus-Christ notre Sauveur, on est sauvé par la foi, et en venant à Jésus-Christ, on entre dans son repos éternel, et un jour, il va nous conduire dans cette grande terre promise qui est le ciel, qui est le paradis, où il n'y aura pas de douleur, pas de souffrance. Et c'est ce qu'on comprend, c'est ce qui est révélé dans le Nouveau Testament. Malheureusement et tristement, les Juifs ne comprennent pas ça. Moi, j'ai eu plusieurs rencontres avec des Juifs et j'ai pu partager vraiment l'Évangile et Jésus-Christ. Et certains ont vu, ont compris, d'autres pas. Il y a même des rabbins qui ont été fâchés, d'autres ont été très ouverts. On ne comprend pas qui souffre dans Romains, qui dit, dans le fond, il pleure pour les Juifs. Il dit, mes confrères, je prie qu'ils soient sauvés. Et c'est une bonne prière. On ne pense pas prier pour le salut des Juifs. On veut prier pour tout le monde. On veut prier pour tous les gens de Gatineau et l'Outaouais, la grande région, et pour le Québec. Et certainement, on veut prier pour des gens à l'extrémité de la terre, comme Dieu le demande. On veut faire des disciples à travers la terre, à travers les extrémités du monde. Mais en même temps, on va prier aussi pour les Juifs. C'est assez impressionnant de voir les missionnaires qui s'en vont là. Tu ne peux pas vraiment évangéliser trop, de façon trop dynamique en Israël, mais tu peux te faire des amis, avoir de bonnes relations et au travail, et certains Juifs peuvent partager l'Évangile là-bas. Et certains Juifs se convertissent, et ici aussi au Québec. Donc, une autre chose qu'on va faire aussi dans la soirée, c'est qu'on va avoir des louanges, des psaumes. On va terminer la soirée, d'ailleurs, avec un bloc, ce qu'on appelle, ce que les Juifs appellent le Hallel, qui est finalement des louanges. C'est un bloc de 6 chapitres, des psaumes 113 à 118. Et on va terminer la soirée, cette fête de célébration, en chantant et en récitant ces psaumes, le Hallel. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, vous savez, a partagé la Pâque, il a célébré la fête de Pâques. Et il a chanté, on voit qu'il a chanté des cantiques aussi. Juste quelques heures avant sa crucifixion, avant sa mort, il chantait des louanges. D'ailleurs, ce Hallel, ces 6 chapitres, les Juifs appellent cela le Hallel de l'Égypte, parce que ça parle justement de cette grande délivrance. C'est vraiment intéressant parce que lorsque les Juifs récitent ces chapitres, ils vont répéter quelquefois ce verset qui dit « La pierre que les bâtisseurs ont méprisée est devenue la principale pierre d'angle. » Et évidemment, cette pierre, hein, c'est Jésus-Christ. Alors, ce passage est cité d'ailleurs dans le Nouveau Testament, il est attribué à Jésus-Christ. Mais les Juifs vont réciter cela à quelques reprises, et chaque fête juive, ils vont dire cela. L'autre chose que vous allez avoir ici dans le souper, et ça, tout le monde va avoir une petite copie au souper, tout le monde est assis autour, il va avoir une copie de chaque assiette, et ça s'appelle le Haggadah. C'est, d'ailleurs, il y a, la forme peut changer, les couleurs peuvent changer, les modèles vont changer. Vous en avez ici 2 modèles que je vous présente, mais c'est le contenu qui est évidemment, sera pareil partout à travers le monde. Il est dynamique, c'est-à-dire qu'il peut changer à travers les années, parce que c'est un recueil à travers les siècles de prières, de chants, etc. Et on suit, ça c'est l'ordre du souper, alors c'est pas par cœur, on ne mémorise pas toute la soirée, on suit simplement les étapes de l'ordre. Alors on a notre cahier, puis on suit, il y a les prières qui sont déjà dedans, et puis il y a les questions que l'enfant va poser, sont tous à l'intérieur. Donc on fait simplement suivre le cahier. Donc, le Haggadah, qui veut dire raconter. Alors, on raconte. Ça revient à ce verset qu'on disait justement dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Tu diras à ton fils ». C'est dire, c'est raconter. Une autre chose que vous allez voir, c'est l'assiette. J'aimerais bien vous la montrer, celle-ci, mais si je la lève, ça va tout tomber. Laissez-moi vous montrer. Encore, on a différents modèles, mais ils ont tous des trous, des petits compartiments parce qu'on va mettre la nourriture. Ils ont tous 6 compartiments. Et regardez différents modèles que je vous montre ici. Et c'est là-dessus qu'on va mettre certains ingrédients. Et on va garder celle-ci ouverte un petit peu pour vous montrer. Et c'est ce que j'ai ici en avant. Vous allez avoir du réfort, un os, vous allez avoir justement des herbes amères. Et on va vous expliquer un peu les ingrédients qu'il y a dans l'assiette. Bien, vous allez avoir l'os grillé, que je vous ai parlé tantôt, qu'on appelle le zéroa. Ça, c'est l'os grillé. C'est un rappel, justement, à l'agneau pascal, surtout maintenant qu'on ne peut pas offrir de sacrifice. Deuxième chose, vous allez avoir l'œuf, un œuf rôti. Et ça rappelle, évidemment, le temple que je disais tantôt. Ça rappelle le temple. Et il y a un élément de brisure, il y a un élément de tristesse ici, parce qu'on se rappellera la destruction du temple. D'ailleurs, vous allez voir dans toutes les festivités, tous les festivals et les fêtes juives, il y a toujours un élément de tristesse à quelque part, même si la cérémonie est très heureuse et joyeuse, même le mariage juif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un programme dans lequel vous avez une cérémonie juive, un mariage juif, et il me semble s'il y a un événement dans ta vie où tu dois être de la joie incroyable, extraordinaire, hein, c'est de ton mariage. Bien, même à l'intérieur de cette fête, de ce mariage, à quelque part, tu vas voir le mari qui va prendre un verre, une coupe de vin, va le jeter à terre, puis va l'écraser. D'accord? Pourquoi? Parce que ça rappelle justement la destruction du temple. Et tant aussi longtemps que le temple est détruit, il y a une certaine tristesse qui demeure, qui reste. L'idée est qu'aucune joie ne peut être entière tant que le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit. Et là, le mari va citer le psaume 137 à ce jour de mariage où il écrase le verre. Il dit, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » Et la droite, c'est avec ça que tu travailles, c'est si t'es droitier. Et donc, il est en train de dire, « Si j'oublie Jérusalem, eh bien que j'oublie mon métier. » Alors, imagine-toi, non, si j'oublie Jérusalem, moi qui est peut-être un électricien, je veux que j'oublie toutes mes techniques et la connaissance que j'ai, que je ne serais même pas capable de faire mon métier si j'oublie Jérusalem. Donc, d'où l'importance ici. Hein? Il dit que ma langue se colle à mon palais si j'oublie Jérusalem, si je ne me rappelle pas ton souvenir, si je n'élève pas Jérusalem au-dessus de ma joie. Donc, on met la priorité de Jérusalem et particulièrement le temple, au-dessus même du bonheur que je peux éprouver, notamment lorsque je me marie, qui est une journée vraiment très joyeuse. Et c'est là que le mari va casser son verre, la coupe. Maintenant, encore, certains vont changer ici, selon les traditions juives. Certains mangent l'œuf, d'autres ne touchent pas à l'œuf. Ils vont rester, ils vont laisser l'œuf toute la soirée, comme un rappel, tout simplement. Et encore là, c'est triste parce que pourquoi, qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient de la destruction du temple. Le temple, c'était la présence de Dieu. Alors imaginez, plus de temple, Dieu n'est plus là. Mais ce que les Juifs ne réalisaient pas, c'est que Dieu avait déjà quitté. Hein? Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, lorsque l'Esprit Saint sort du temple. Et Dieu a revisité le temple. Quand? C'est quand Jésus-Christ a marché dans le temple. Dieu était là dans le temple. Imaginez. Des gens l'ont accusé. Ils ont dit, tiens, Jésus, ils ont cherché des accusations contre lui. Ils ont dit, tiens, il a dit qu'il était pour détruire le temple en 3 jours, puis le rebâtir en 3 jours. Là. Détruire et rebâtir, mais il faisait allusion à son corps. Et lorsque Jésus a été offert en sacrifice sur la croix, c'était le temple qui se détruisait dans un sens, alors qu'il a été tué, mis à mort, crucifié. Et il est mort, mais il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et là, depuis acte, le Saint-Esprit est descendu dans nos cœurs et nous sommes maintenant le temple, n'est-ce pas? L'Église est le temple. Donc, Jésus a pris donc la tristesse de la destruction du temple, c'est-à-dire des conséquences de notre péché. Il a pris ça sur lui afin que nous, on ait la joie, qu'on fasse partie du temple. Que le temple ne se détruise plus jamais parce que c'est l'Église, c'est nous autres, les enfants de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Donc, pour nous, c'est qu'on a la joie et Jésus-Christ a pris la tristesse. Il a pris le jugement sur lui. La honte et la culpabilité qui nous revenaient, c'est lui qui l'a pris sur lui. D'ailleurs, nous pensons à Matthieu 26 qui dit ceci. Jésus prit avec lui Pierre et ses deux fils et ses les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse. On pense dans le jardin de Gethsémané, comment Jésus était triste. Il était plein de tristesse, saisi de tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Jésus est en train de porter la lourdeur, la tristesse de tous nos péchés. C'est lui qui a pris ça. Il a été saisi de tristesse. Un autre ingrédient qu'on va avoir, c'est le marar, qui est la deuxième forme, finalement, d'herbe amère. Tu as les herbes amères qui sont complètes, c'est-à-dire le réfort, qui est direct, et tu as d'autres, c'est le marar. Ce que tu fais, tu peux prendre les herbes ici, et tu vas la tremper dans de l'eau salée pour la manger. Fait que tu as ce goût-là amer. Et alors, c'est amer. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui aiment ça du réfort. Est-ce qu'il y en a qui lèvent? Levez la main ceux qui aiment le réfort. Quelques-uns, hein? Oui. Vous n'êtes pas pire, vous êtes courageux, vous autres. Moi, je ne comprends pas ça des gens qui aiment le réfort, comme je ne comprends pas ceux qui aiment le foie de veau, mais ça, c'est une autre histoire. C'est assez. As-tu déjà goûté à ça du réfort? Hein, Jean, viens-t'en ici, là, Jean Destin. Viens-t'en. Non, ne cherche pas en arrière, c'est toi, Jean. Viens-t'en. Écoute! J'aimerais que tu goûtes à ça. As-tu déjà goûté à ça? Non, je t'ai rien fait. Je pense que tu vas me faire quelque chose cette semaine. Hein? Ça a l'air que ça fait sortir les larmes des fois, mais ça dépend. Là. Tiens, bon courage. Tiens, goûte à ça, là, toi. C'est-tu piquant? Oh, tu. Non, regarde, toi, tu regardes. Vas-y direct. Ah non, vas-y, mange. C'est assez. Oui, un peu plus. Un petit peu plus. Merci, puis. Hein? Ça, c'est fort, hein? C'est dégueu, hein? Ben merci, t'es pas mal courageux. Je te dois un lunch, Jean, je pense. Eh bien, vu qu'on est dans le deuxième service, j'ai mis quelques cuillères. Oui, puis tu vas voir, ça devient de plus en plus fort avec le temps. Tu vois, il va changer de couleur tantôt. J'ai quelques cuillères ici sur la table. Si jamais vous êtes courageux, vous voulez venir. C'est le deuxième service. Je ne peux pas faire ça au premier service. Oh, comme vous êtes gâtés au deuxième, vous allez pouvoir venir goûter si vous voulez. J'ai un peu de réfort là. Donc, le marard, le carpas aussi, c'est des herbes, des feuilles. Ça peut être le céleri. Moi, j'ai mis du céleri ici. Et ça fait penser au printemps, la nouvelle naissance, le printemps. Vous avez le harocette. Et le harocette, c'est ça ici. C'est pas très joli. Ici, il est plus beau. Ah, ça, c'est le pain, ça. Hein? Oui. Regardez bien. Ici, vous voyez? Ça, c'est joli, ça. Le mien n'est pas beau du tout. Mais c'est pas supposé d'être vraiment joli parce que ça, ici, c'est un mélange. C'est bon, c'est goûteux, c'est sucré et c'est fait par exprès. C'est un mélange de dattes. Nous, on l'a fait avec des dattes. Vous savez, des dattes qui vendent à Costco de ce temps-là, qui viennent d'Israël, c'est pas mal bon. Fait que vous avez des dattes et vous pouvez mélanger ça avec des pommes et tout ça. Et après ça, ce que vous faites, vous faites une pâte et vous mélangez ça avec un peu de vin. D'accord? Et nous, on le mélange ça avec du jus de raisin. Fait que si vous voulez goûter à la fin, vous allez voir, ça. Nous, on a pris juste des dattes, mais vous pouvez mélanger avec des pommes et tout ça. Pourquoi? Ça fait penser, c'est un symbole. Hein? Il y a des symboles à travers chaque ingrédient qui sont sur la table. Ça fait penser à quoi? Au mortier avec lequel ils ont fait des briques en Égypte. D'accord? Alors, quand vous mangez cela, on pense à, justement, le travail, l'effort que les Juifs ont déployé pour construire lorsqu'ils étaient esclaves. Le haroset. Vous allez remarquer une autre affaire aussi. Je l'ai pas sorti. On va avoir un coussin. Lors du souper, dans certaines traditions, c'est juste l'hôte qui va être le père, qui va être assis au bout de la table, qui raconte l'histoire, il aura un coussin. Dans d'autres traditions, c'est que chaque personne a un coussin. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on mange et lorsqu'on prend la coupe de vin, dans notre cas, ça va être du jus de raisin, ce qu'on va faire, en passant, on va prendre la Sainte-Sainte tantôt, là, mais c'est très cachère, hein? Moi et Dominique, ce qu'on a fait, on est allé à Montréal, dans le secteur juif, dans le quartier juif à Montréal, centre-ville de Montréal, là, puis on est allé chercher ça, là, ce que vous allez manger ce matin. Là. Donc, c'est approuvé par les rabbins et tout ça. Donc, vous allez manger finalement ce que les Juifs mangent lors des fêtes juives. Et ce qu'on va avoir, on va avoir un coussin. Et pendant qu'on va manger le souper, on va manger les ingrédients, on va s'incliner sur le coussin, sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que seuls les gens qui étaient libres pouvaient s'incliner lorsqu'ils mangeaient. Et les esclaves n'avaient jamais le droit, finalement, de manger incliné. Alors, par exprès, on le fait intentionnellement. On va manger de façon inclinée, on va s'appuyer sur le coussin, puis on mange parce que c'est la soirée de la liberté. On fête, le Pâques, c'est la liberté, on célèbre la liberté. Et pour nous, dans le fond, nous célébrons cette grande liberté en Jésus-Christ. Nous sommes libres de l'esclavage du péché. Est-ce que j'entends des « Amen » ici? Ah, mon ami, nous, on comprend la vraie signification de Pâques. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui peut célébrer la Pâques, c'est bien nous, parce que Jésus est l'agneau qui a été offert pour nos péchés. Nous sommes libres maintenant et Jésus est ressuscité. Ah, c'est tellement bon. Donc, le coussin. Le pain, matzah. Trois critères absolument essentiels, non négociables maintenant, aujourd'hui. Oups, ça, c'est pas trop bon. Ce qu'on va faire, tiens, j'ai même une photo ici qu'on a du pain, matzah. Vous avez remarqué trois choses. Il y a trois choses. C'est quoi? Sans levain, il y a des lignes, des barres et des trous. Pourquoi? Bien, pour nous, nous comprenons derrière cela, il y a vraiment un sens, on peut certainement avoir une belle image de Jésus-Christ qui a été trouvé, hein, les mains trouées, qui est sans levain, qui est parfait, sans péché, parce que le levain dans les Écritures, c'est l'image du péché, et aussi ses coups de fouet, ses lignes, ses barres et tout ça. Et là, vous allez demander au rabbin, c'est pourquoi d'abord vous avez exigé ça, parce qu'il faut absolument, il y a trois critères pour que ça soit cachère. Et puis, les rabbins vont apporter toutes sortes de théories, mais ils n'ont aucune espèce d'idée d'où c'est venu dans l'histoire. Ils ne savent pas. Ça vient d'où, cette tradition-là. C'est vraiment intéressant. Ils vont apporter quelques théories maintenant, en 2015, mais tu recules. Oui, mais ça vient d'où, ça? Ils n'ont aucune espèce d'idée. Nous, je pense qu'on a on a la vraie idée. Je pense que ça a bien de l'allure, notre théorie. Cette belle image. En tout cas, c'est certainement une belle image de Jésus-Christ. Jésus, en passant, lui-même dit que le pain fait référence à lui. Pas vrai? Il a dit, « Je suis le pain de vie. » Il a dit, lui-même s'attribue cette image. Et il a dit, par exemple, on lit dans le Nouveau Testament, lorsqu'il dit qu'il est le pain, lorsqu'il distribue le pain à ses disciples, lorsqu'il est en train de célébrer la Pâque, il est en train de dire, « Ce pain est mon corps. » Alors, lui-même s'attribue cette image à lui. Puis il dit, « Mangez, mangez ce corps, finalement, qui est Jésus-Christ. Prenez-le. » Alors, ce que vous allez trouver aussi, un autre élément, c'est la matzah. Et ça, c'est vraiment intéressant. La matzah, c'est matzatash, dans le fond. C'est un sac à matzah, matzos au pluriel. Et vous allez remarquer, c'est comme un oreiller, finalement. Et encore là, vous allez avoir différents modèles et tout ça. Il y en a qui ça coûte 100$, d'autres 1000, d'autres 25. Ce qui est particulier, vous allez voir derrière le sac, à l'intérieur du sac, il y a trois compartiments. D'accord? Et c'est vraiment intéressant parce qu'on va mettre un matzah, on va mettre un pain. Bon, au début, on va le mettre dans les trois, selon certaines traditions, mais on les enlève, on met un pain dans le milieu. Alors, pensez à les trois personnes de la Trinité et celui du milieu, hein, Jésus-Christ, et on va le mettre à l'intérieur d'ici. On va le mettre à l'intérieur du sac. Puis, on va à un moment donné cacher un morceau du matzah, on va le cacher dans la maison, on va casser ça en deux. Dans le foyer, ça devient vraiment un jeu pour des enfants. On va casser, on met un morceau dans le milieu, l'autre, on s'en va le cacher. On appelle ça le afikomen. On va cacher ça à quelque part dans la maison. Et dans le déroulement de la soirée, à quelque part vers la fin de la soirée, on demande aux enfants de partir à la chasse au trésor, aller trouver finalement ce bout de pain, afikomen, et celui qui va le découvrir va recevoir une récompense. C'est pour ça que ce matin, on va faire ça, d'accord? En dessous d'une de vos chaises, il y a justement l'afikomen. Alors, regardez ça, puis si vous trouvez le petit bout de pain en dessous de votre chaise, venez en avant, j'ai un cadeau pour vous à vous remettre, d'accord? Alors, cherchez ça, vous pouvez aller sur des chaises à côté s'ils sont vides. Prenez quelques secondes, il y a peut-être des chaises vides à côté de vous, faites-les toutes, allez-y, parce qu'il y en a un, à quelque part. Ma femme qui l'a placé, je ne me souviens pas où elle a placé ça, fait que je ne sais pas. Oui, on l'applaudit! Tiens, félicitations, c'est bon. Ils ne l'ont pas trouvé au premier service. Il a fallu ma femme à l'aide à la fin, là. C'est un petit gars finalement. Alors, bravo et un beau petit cadeau. Donc, le sac à matzah et la ficomène qu'on va cacher, et ça fait penser certainement à Jésus-Christ. Hein? Jésus qui a été crucifié, qui a été caché sous la terre, dans la mort, pendant 3 jours. Il revient à la vie. Il revient hein, après un certain temps. Ça nous fait penser à Jésus, ça. C'est magnifique. Et vous avez aussi les 4 coupes de vin. Très important, les 4 coupes. Pourquoi? On va prendre 4 coupes pendant la soirée. 4 coupes de vin au cours de la soirée. Chaque coupe a un nom. Et les 4 coupes, pourquoi 4? Parce que ça fait référence à des expressions du salut d'Israël, justement, en Égypte. Il y a un passage dans Exode, chapitre 6, qui dit ceci. C'est pourquoi, vous allez remarquer les 4 mots qui est une forme du salut, 4 volets du salut de Dieu. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont je vous charge, dont vous êtes chargés, dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai, on parle de délivrance, de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Donc, pensez à l'adoption dans le Nouveau Testament, hein, cette adoption qu'on devient un enfant de Dieu. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi. Alors, d'où les 4 coupes de vin, le salut en 4 volets. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au cours de la soirée, tu prenais un à la suite de l'autre, parce qu'il y a des étapes là-dedans, il y a tout un ordre à suivre, et chaque coupe a un nom. La première coupe s'appelle la coupe de sanctification. La deuxième coupe, et ça on prend ça au début du service, ça l'ouvre finalement la soirée, ça l'ouvre le souper, et c'est la coupe de célébration, de sanctification. La deuxième coupe est la coupe du jugement. Pourquoi le jugement? Parce que la deuxième coupe, au cours de la soirée, ce qu'on va faire autour de la table, on va prendre son doigt, on va mettre le doigt dans le vin, puis on va faire des petites gouttes dans l'assiette, et ça symbolise les 10 plaies d'Égypte dans l'Ancien Testament. Donc, c'est les jugements. La deuxième coupe représente le jugement. La troisième coupe, et les rabbins disent que la troisième coupe dans la soirée, c'est la plus importante, parce que c'est la coupe qui s'appelle la coupe de la rédemption, la coupe du salut. Et la quatrième coupe, finalement, qui est moins importante, mais ça clôture la soirée, c'est là qu'on dit le Hallel, on va réciter les psaumes. N'est-il pas intéressant que les rabbins disaient que les deux coupes les plus importantes, c'est la première et la troisième? Intéressant, dans Luc, lorsque nous avons cette histoire, lorsque Jésus présente la coupe à ses disciples lors de la Sainte Cène, on ne voit que la première et la troisième. Mais la troisième est la coupe du salut, la coupe de rédemption, et c'est cette coupe-là que Jésus dit à ses disciples, « Prenez ceci, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance en mon sang. » Et ce que Jésus fait, il aide les disciples à comprendre la vraie signification de la Pâque juive, que dans le fond, depuis le début, elle pointait à Jésus. Et que Jésus est l'agneau parfait, Jésus est l'agneau pascal qui nous libère de nos péchés une fois pour toutes. Et moi, je vais entendre des amen ici, hein? Oh, amen! C'est fantastique! Troisième coupe. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 22. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on verse des coupes de vin à tout le monde, plus une personne qui n'est pas là. On va prendre une coupe, on va verser du vin dedans, et on ne la touche pas, on la laisse là toute la soirée, et on va mettre une chaise vide autour de la table. Et pour qui? C'est pour Élie. Je vous disais tantôt que les Juifs n'ont pas encore reconnu, n'ont pas vu leur Messie encore, ils attendent toujours le Messie. Et ce que nous apprenons dans l'Ancien Testament, c'est qu'avant que le Messie vienne, Élie devait venir, le prophète, pour préparer la voie du Messie. C'est la raison pour laquelle dans chaque famille juive, lorsqu'ils célèbrent la Pâque juive, tu vas avoir une chaise vide, tu vas avoir un verre de vin, au cas qu'Élie, le prophète, décide de venir. D'ailleurs, à la fin du service, à la fin de la soirée, on termine là-dessus, l'enfant va courir à la porte, va ouvrir la porte de maison pour regarder dehors si Élie arrive. Ça fait partie du rituel. Et il va dire, peut-être l'an prochain à Jérusalem. Imaginez, il y a cette attente du Messie. Frères et sœurs, le Messie, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons trouvé, quelle grâce! Et nous, on ne veut pas garder ça pour nous-mêmes, n'est-ce pas? On veut partager cette bonne nouvelle à tout le monde. Donc moi, j'invite les frères qui sont assignés à distribuer les éléments de la Sainte-Cène, à venir en avant. On va vous distribuer ces éléments-là et on va prendre la Sainte-Cène ensemble. À la lumière de cet enseignement-là, je pense qu'on peut mieux apprécier ce temps de prendre part à ce repas. C'est du jus de raisin, c'est pas du vin en passant. Là. Mais c'est du jus de raisin cachère.
Alors, je vous invite à chanter ce chant avec nous, un chant qui nous invite à venir à Jésus, à chanter à Jésus, même à crier à Jésus, peu importe ce que nous vivons.
Blessé, brisé, pécheur,
tu es perdu, tu m'as. Où l'amour vient frapper à ta demeure. Viens Jésus, viens Jésus. Ton fardeau maintenant t'est au loin. Le sang précieux a lavé ton péché. Chante à Jésus, chante à Jésus, chante à Jésus. Quand tu apprends à marcher, ne sois pas effrayé. Ce que toi marches, c'est aussi tombé. Retombe sur Jésus, retombe sur Jésus, retombe sur Jésus. Ton âme est meurtrie, tu te sens envahi, et quand ne cesse de tomber la pluie, crie à Jésus, crie à Jésus. Lorsque ta joie abonde dans la musique inonde, aussi grand qu'il peut changer le monde. Danse pour Jésus, danse pour Jésus, danse pour Jésus. Ton dernier soupir, le monde te saura fuir. En paix et dans la joie, tu peux sourire. Et va Jésus, va Jésus.
Au ciel, Jésus sera là. Écoutez bien la scène. Nous serons là si vous êtes en Jésus-Christ. Nous serons là. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? » Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Jean, qui a cette vision, dit ceci, dit « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Puis, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Dieu est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Gloire à Jésus, hein, pour son sacrifice parfait. Alors Jésus, avec ses disciples, donne ce pain à ses disciples et il dit « Mangez » en mémoire de ce que j'ai fait, du sacrifice que j'ai fait. Et ce matin, nous voulons nous rappeler, nous voulons célébrer le salut que nous avons, cette grande délivrance de nos péchés, en prenant ce pain et cette coupe en mémoire du sacrifice parfait, de cet agneau parfait, Jésus-Christ. Mangeons et buvons. Au Seigneur notre Dieu, comme nous voulons te remercier, te louer, Seigneur. Un jour, nous serons agenouillés devant toi en adoration, avec des milliers, des milliers, des myriades et des myriades, te glorifier, t'adorer pour tout ce que tu as fait pour nous. Quelle grâce, quel amour. Et nous voulons te remercier, te louer, Seigneur. Nous voulons partir, quitter ce lieu et être un témoignage qui sera puissant pour ta gloire. Nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur, à la lumière de tout ton amour, de ta grâce, de tout ce qui s'en vient pour nous. On ne veut pas vivre comme le monde. On veut vivre, Seigneur, à notre travail, près de nos voisins, nos familles. On veut être un témoignage puissant de notre cher Sauveur. À toi la gloire, Seigneur. Nous avons hâte. Maranatha, reviens Jésus. Pour ta gloire. Amen.